à voix nue. Cette semaine, Sylvain Bourmont s'entretient avec Pierre Birnbaum. Ce soir, une œuvre sociologique.
Hier, Pierre Birnbaum, nous avons beaucoup parlé de vos lectures, de votre rôle de passeur, de votre rôle d'éditeur. Et on a vu à quel point votre travail était nourri de cette curiosité qui dépasse bien évidemment les frontières souvent provinciales de l'espace public français. Et on a au fond pas encore assez parlé pendant, c'est-à-dire de l'œuvre, de l'ensemble des livres que vous avez écrits, qui ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, des livres de commentaires de ces lectures, qui sont des enquêtes originales, qui sont des contributions théoriques originales, évidemment nourries par vos lectures, mais qui vont connaître différents moments, différentes inflexions. Et je voudrais qu'on commence aujourd'hui, Pierre Birnbaum, avec l'année 1979, une année pendant laquelle vous publiez concomitamment deux livres très différents, l'un en collaboration avec Bertrand Badi, que vous co-signez, Sociologie de l'État, qui est resté un livre classique pour la sociologie politique, et puis un autre livre que vous signez seul, Le Peuple et les Gros. Ces deux livres paraissent chez le même éditeur, la même année. Comment expliquer une telle productivité pour un jeune chercheur alors encore?
Alors, ce sont deux livres qui désignent au fond deux perspectives que je vais suivre dans les années postérieures. D'un côté, une réflexion sur l'État, une théorie de l'État, une sociologie de l'État, prendre l'État comme variable explicative des phénomènes sociaux, réfléchir à la comparaison entre les types d'État. C'est un travail théorique construit à partir d'un matériel secondaire. Et l'autre livre est un livre, pour moi, clé. C'est-à-dire que je m'attaque à partir d'archives, à partir d'un matériel empirique que je construis, que je découvre, à une mythologie. Donc on a au fond deux pans à partir desquels je pense qu'on pourrait presque reconstruire tout mon travail postérieur. D'une part, suivre une approche de théorie politique à partir d'une réflexion comparative sur les types d'État qui va à l'encontre d'une sorte de marxisme dominant ou de sociologisme dominant et qui met l'accent sur la comparaison des formes étatiques pour expliquer la manière dont dans les faits sociaux se structurent autrement dans tel ou tel type de société ayant par ailleurs un même mode de production. Donc vous voyez bien qu'il y a une polémique avec le marxisme ou bien toutes les formes d'économisme.
Pour le dire autrement, c'est accorder de l'attention
aux politiques.
Aux politiques à travers l'État, en l'occurrence, pour voir comment l'État va jouer un rôle dans la façon dont les choses s'organisent dans des sociétés, alors même que ces sociétés sont capitalistes de la même manière. Voilà. Et donc, votre livre et votre théorie est connue pour distinguer ce que vous avez appelé un état fort, un état faible, en prenant des exemples historiques.
Alors évidemment, je vais beaucoup trop loin, et on est au niveau d'un modèle, d'un type idéal, d'une typologie. Il n'y a jamais eu d'état vraiment fort, ni vraiment jamais d'état vraiment faible.
Alors c'est la France l'état fort?
Alors si on compare ces deux modèles, la France est la société qui s'approche le plus de ce modèle d'état fort, c'est-à-dire d'un modèle où l'État comme structure est fortement différencié, disons, de la classe sociale, de l'Église, du religieux, des clans,
de l'économie.
De l'économie, pas seulement de l'économie, des partis politiques, des ethnies, de toute forme d'appartenance collective. Donc c'est un effort qui n'a pas été achevé, bien sûr, mais un effort vers l'universalisme. Au fond, l'État se prend pour l'instrument de la raison et construit un espace public ouvert à tous ses citoyens. C'est unique, c'est une exception. C'est une exception qui est unique au monde et qui est la conséquence des Lumières à la française, avec cette espèce de prétention à vouloir toucher du doigt l'universalisme. Alors, un État qui est différencié d'une part et un État, ce qu'on disait, institutionnalisé, c'est-à-dire un État qui dispose de son propre appareil méritocratique, dispose de son propre trésor public, de ses propres règles d'accès.
De son droit aussi.
De son droit administratif, qui est le droit de l'État. Et c'est en France, finalement, avec une grande tradition du droit administratif, du service public, de la puissance publique, que se crée cette espèce de droit qui légitime un objet spécifique et une ambition particulière que le droit administratif vient sanctifier, protéger et reconnaître. Si on compare avec, disons, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, on voit bien que aucune de ces sociétés n'a pu construire un espace public unifié. L'État est toujours à la remorque ou en emprise avec le monde des affaires. Prenons l'Angleterre, les États-Unis, les présidents de la République sont tous issus du monde des affaires. L'élite dominante aux États-Unis est entièrement issue des grands cabinets d'affaires, des grandes universités privées. Elle est empreinte de religiosité. L'Ivy League est encore baignée dans la religion protestante. Idem en Angleterre, Oxford ou Cambridge restent encore au XXe siècle, largement dans un contexte culturel protestant, totalement ancré dans l'upper class anglaise. Rien de tel en France où, dès la naissance de l'État fort et l'État républicain, avec par exemple la méritocratie qui se crée au lendemain de la Révolution française, on entre à Polytechnique, on entre à l'École normale supérieure, on entre à l'université sur des bases méritocratiques et gratuites. Et on y est même payé parce qu'on va servir l'État. En Angleterre, aux États-Unis, ce sont des sommes immenses qu'il faut débourser pour entrer dans ces très grandes universités de l'Ivy League aux États-Unis ou d'Oxford et de Cambridge. Donc on a deux modèles qui se séparent totalement du point de vue de la gestion du politique et de son ambition. Si l'on ajoute en plus que la France est une société totalement centralisée, on voit bien qu'en France, c'est l'État qui crée sa nation. En France, c'est l'État qui prend en charge sa nation. Les citoyens ont une relation directe avec cet État dans un espace public universaliste et ouvert à tous les citoyens. Si vous prenez le monde anglo-saxon, l'Espagne a échoué à construire un État centralisé. Les régions ont énormément de pouvoir. L'Italie a échoué, même si le Piémont a tenté d'y parvenir, a échoué à construire une société unifiée du point de vue de l'espace public et reste des sociétés fédérales, décentralisées, avec d'autres ambitions et elles sont méritoires et elles sont tout aussi intéressantes que celles de l'État à la française. Mais on voit bien qu'on a là deux types de modèles. Alors, évidemment, probablement que j'ai exagéré la différence entre ces deux types de modèles, mais elles pointent du doigt des différences et elles nous permettent de comprendre comment les acteurs sociaux organisent, et on retrouve la question de l'intentionnalité des acteurs, les acteurs sociaux comprennent que leur mobilisation doit être différente selon le type d'État. Je prends un seul exemple qui me vient à l'esprit. Il y avait un auteur que j'ai bien connu aux États-Unis qui s'appelait David Apter. Et il est professeur à Yale, il écrit un très bel article où il montre comment l'anarchisme anglo-saxon est très différent de l'anarchisme français, puisque les Anglais inventent la contre-culture. La Beat Generation, les jupes, les vêtements, la contre-culture, dans la négation, au fond, du contrôle social. Mais en France, l'anarchisme, c'est la négation de l'État. Donc on a une théorie politique contre l'État. En Angleterre, on a des réflexions qui se lèvent contre la société, contre la domination des mœurs. La cible en Angleterre, aux États-Unis, ce sont les normes collectives, puisque l'État y est faible, il y a là une logique. Au contraire, en France, dans la mesure où l'État y est fort, c'est lui qui est porteur des normes collectives, pratiquement. Alors la cible, c'est l'État, et tout est dirigé vers l'État. Prenons la classe ouvrière française, se met en grève, mais ces grèves sont des appels à l'État. On demande à l'État d'intervenir pour gérer le conflit social. Pas du tout en Angleterre, pas du tout aux États-Unis, où la classe ouvrière mène de très longues grèves, comme l'a montré Charles Tilly, beaucoup plus longues qu'en France, mais ces grèves sont menées contre le patronat et non pas contre l'État. Puisque dans la logique qui est la mienne, l'État ne peut pas gérer le conflit social, l'État n'a pas la légitimité pour gérer ce conflit social, cette légitimité qu'on lui reconnaît en France.
Alors ça, c'est pour le versant sociologie de l'État. Mais donc, au même moment, la même année, Le peuple et les gros, qui va marquer peut-être le début d'une série de livres, en tout cas, d'un type de travaux nouveau pour vous.
En réalité, si l'on compare ces deux livres qui sortent effectivement le même mois, pratiquement, l'un est la négation de l'autre, on pourrait dire. Dans un premier livre, j'affirme que l'État, la française, est au cœur de cette société. Et dans l'autre, j'essaie de montrer que la société française, néanmoins, tombe dans le travers de la mythologie. Et qu'une grande partie des acteurs de cette société ont accepté, à travers deux siècles de cette histoire, une mythologie radicale qui est d'expliquer le pouvoir non pas par l'État, mais par la mythologie des gros. La société serait dirigée par un petit groupe de personnes anonymes, cachées, qui, derrière, dominerait la société française et qui exploiterait les petits. Donc on a cette opposition entre les petits et les gros qui est devenue assez classique et qui est reprise très souvent maintenant dans le...
Encore aujourd'hui,
on évoque souvent ce livre, au fond, qui fait référence à l'explosion d'une mythologie qui traverse l'ensemble des courants politiques. Aussi bien le Parti communiste que la droite, l'extrême droite, le Parti socialiste. Au lieu d'analyser la société française soit à travers du prisme de l'État, comme je le propose, soit à travers du prisme du marxisme ou de la sociologie des classes sociales, et d'essayer de montrer qu'en France, comme partout, il y a des classes sociales, qu'elles se combattent, qu'elles négocient leur pouvoir, qu'il y a de la mobilité sociale, de la mobilité régressive. Bon, de faire une analyse sociologique des classes sociales. Au lieu d'avoir ce type d'analyse, on se contente d'une mythologie et d'une dénonciation qui passe à côté totalement de l'explication du comportement des acteurs. Et dans la rédaction de ce livre, j'avais absolument été effaré par la manière à ce point permanente par laquelle les partis politiques et même les penseurs du politique accusent ce petit groupe caché, informe, anonyme, de diriger avec leur petit chapeau, leur gros cigare et leur gros nez, très souvent, le peuple de France. Donc très vite, il y a une dimension aussi qui touche à la question de l'antisémitisme. Et très souvent, au fond, dans cette accusation, les gros nous dirigent, les gros nous exploitent, qui revient dans le langage d'aujourd'hui en 2020. En 2020, avec l'élection de M. Macron, on a en permanence, on a cette espèce d'idée que ce sont les gros qui dirigent la France, l'oligarchie, la caste, ce sont les mots qui reviennent sans cesse dans le vocabulaire contemporain en 2019-2020 et qui mobilisent, à travers cette mythologie, nos concitoyens, se donne une explication de la société française qui est fausse.
Avec des théories du complot.
Avec des théories du complot.
On utilise beaucoup plus l'expression.
Bien évidemment. Mais ces théories du complot, elles charrient bien souvent une dimension propice à l'antisémitisme. Et lorsque l'on entend souvent cette équation, les gros, c'est Rothschild. Rothschild est juif, et donc les juifs dirigent la France. Et on a, dans cette mythologie des gros, qui en elle-même n'a rien d'antisémite, mais se greffe très souvent, et je le montrais dans ce petit livre, Le peuple et les gros, une dimension antisémite, de rejet d'un patronat qui serait pris en main par des gros juifs avec des gros cigares et des gros nez, et qui viendrait dominer le peuple de France innocent, vertueux, modeste, réservé, serein dans sa vie, mais... qui serait comme entraîné par des gros qui le mèneraient à sa dégénérescence, enfin qui menaceraient presque son existence, ses racines terriennes. Et ce livre, au fond, on a là deux livres très contradictoires à y réfléchir, qui proposent des analyses radicalement contraires de cette société française, mais qui en même temps se complémentent l'un l'autre. D'un côté, on a ce que je pense être la réalité de la société française, c'est-à-dire ce rôle considérable accordé à l'État, avec les hauts fonctionnaires, avec l'appareil d'État, avec l'ENA, la manière dont les grands corps jouent un rôle prédominant dans cette société française. Et de l'autre côté, on a la perception mythologique de cette société qui ne prend pas au sérieux, qui ne prend pas compte, qui ne rend pas compte de ce que la France a de, d'exceptionnel à travers précisément cet État qui gère depuis Louis XIV jusqu'au général de Gaulle et jusqu'à aujourd'hui à travers une bureaucratie relativement fonctionnelle et méritocratique le corps social.
Au fond, d'un côté, on a une réalité ou des réalités historiques et de l'autre, des représentations de ces réalités qui vont vous intéresser. Vous avez pointé l'un des enjeux théoriques forts, celui d'une contestation de certaines transformations du marxisme à l'époque, dans la lignée, dans le sillage de Louis Althusser, autour des travaux de Nikos Poulantzas, par exemple. Mais c'est pas le seul front que vous ouvrez, Pierre Birnbaum, puisque peu de temps auparavant, vous avez initié une polémique en pointant du doigt, cette fois, un autre théoricien qui était très lu à l'époque, un anthropologue disparu très jeune, Pierre Clastres, qui avait travaillé en Amazonie. Et là, c'est d'autres types de théories que vous venez contester, toujours pour comprendre le pouvoir, le politique.
L'œuvre de Pierre Clastres est admirable, et ses travaux sur les Indiens Guayaquis sont une merveille. On lit ses livres avec une imagination débordante. On se trouve soi-même dans ces sociétés. On en comprend mieux le fonctionnement. Ce qui m'avait étonné dans ces livres et la manière dont ils ont été accueillis, c'est au fond la glorification du contrôle social. Et nous sommes dans une société française où précisément il y a de la différenciation. C'est-à-dire que les rôles sociaux sont différenciés, l'État est différencié des classes sociales. Et ici, nous sommes dans une société où le contrôle social contrôle tout, puisque il contrôle même jusqu'au rôle sexuel, jusqu'aux manières de vivre les plus intimes, jusqu'au corps. Et je ne comprenais pas que des grands auteurs qui s'intéressent précisément davantage à une tradition émancipatrice qui vient du bas, de Rosa Luxembourg à la théorie des conseils, de la démocratie directe, Claude Lefort, la démocratie, le refus de l'État, le refus de la domination, le refus... Bon, ne comprenez pas qu'il y ait un tel engouement autour des travaux de Clastres qui sont comme l'éloge de sociétés totalement contrôlées et totalement non différenciées, où le groupe l'emporte sur l'acteur, où les rôles sont tous définis, et où l'absence d'espace public, l'absence, évidemment ça n'a pas de sens de parler d'espace public dans ce type de société, mais l'absence au fond de spécificité du politique, qui est le propre de la société française, me paraît justement choquant. Et donc j'ai engagé dans des termes relativement courtois une polémique avec Pierre Clastres qui, n'entrons pas dans les détails, s'est très mal passé puisque en effet je touchais du doigt peut-être un point important. Il me semble que si j'en retiens quelque chose de cette polémique, c'est justement de montrer que il nous faut refuser le contrôle social absolu. C'est-à-dire que toute société met en place des mœurs, des formes de contrôle des acteurs, c'est certain. Mais nous avons la chance en France, par la rupture que l'État justement introduit dans le contrôle social, d'avoir des zones différenciées d'exercice de la citoyenneté. Et c'est moins le cas dans des sociétés où le contrôle social est très fort. Prenez la Suisse, prenez même les États-Unis, j'imagine. Le contrôle social est beaucoup plus exigeant. Et l'État introduit justement avec une citoyenneté forte un contrôle social moins exigeant, en tout cas moins systématique de l'ensemble de la société.
Comment ces réflexions menées alors sur la différenciation, sur l'État comme variable d'explication, sur ses relations avec la société, toutes ces théories, tous ces éléments de théorie que vous développez alors et qui vont continuer parfois à vous servir pour des travaux ultérieurs dont nous parlerons plus tard. Mais comment ces éléments théoriques vous servent encore aujourd'hui à décrypter le contemporain, ce qui se passe aujourd'hui dans un pays comme la France, la manière dont évolue l'État français, la société française, en comparaison toujours avec ce qui se passe ailleurs.
À travers cette opposition de type de modèle, on peut appréhender un peu différemment les polémiques contemporaines sur l'État. Il y a un grand nombre d'ouvrages qui paraissent ces jours-ci, depuis 2-3 ans, disant que c'est la fin de l'État, c'est le dépérissement de l'État, c'est la montée en place d'une caste, d'une oligarchie qui remplacerait l'État. On assiste en effet à des phénomènes de dédifférenciation de cet État fort. Par exemple, on voit depuis quelques années, et même récemment, davantage de personnes issues du monde des affaires accéder à l'État. On assiste à des phénomènes de pantouflage qui ne sont pas contrôlés, où des hauts fonctionnaires se dirigent vers le secteur privé et reviennent dans le secteur public après très peu de temps. Donc,
on sait aussi à la création d'organismes
parapublics privés, bien sûr.
Avec une difficulté pour l'État à définir ses propres frontières.
Tout à fait. Il y a tout un ensemble d'organismes qui sont chargés de missions de service public, mais qui relèvent du domaine privé. Donc les frontières de l'État ont évolué. L'image de l'État s'est obscurcie. On ne connaît plus bien les limites de l'appareil d'État. Tous ces phénomènes sont exacts. Et ils sont décrits par nos collègues, même sur l'évolution du droit administratif, là encore... on constate de grands changements. Il me semble que... j'ai publié un livre il y a 2 ans ou 1 an qui s'appelle « Où va l'État ?» où je proposais quand même de... Par la comparaison, justement, si l'on compare ce qu'est l'État encore aujourd'hui, on voit que l'État tient. On voit que la méritocratie tient toujours, que l'accès à l'État est réservé presque entièrement... au processus méritocratique. On constate que l'immense majorité des hauts fonctionnaires, plus de 80% d'entre eux, mènent entièrement leur carrière sans même passer par le privé, plus de 80% d'entre eux, que seuls à peu près 6% des hauts fonctionnaires pantouflent et passent directement dans le privé. C'est-à-dire que les grandes masses de hauts fonctionnaires, l'appareil d'État dans sa structure, reste encore fidèle à sa mission, même si les frontières de l'État deviennent de plus en plus floues, même si on constate à la marge et parfois même au cœur, malheureusement, des comportements de corruption. Malheureusement, on voit que certains hauts fonctionnaires ne cachent pas leur implication dans l'argent, sont corrompus. L'affaire Claude Guéant en est l'archétype, malheureusement, au fond, comment est-ce qu'un...
Ce sont des faits plus fréquents que d'autres
époques. À mon sens, oui. À mon sens, c'est du jamais vu depuis très longtemps. Il y avait parfois des phénomènes de corruption de la classe politique, du personnel parlementaire, mais que des hauts fonctionnaires issus de l'appareil d'État ayant cette exigence de servir le service public, la puissance publique, puissent être corrompus... relever les enveloppes avec de l'argent, c'est du jamais vu. Enfin, en tout cas, c'est tout à fait exceptionnel et il ne faut pas exagérer. On ne constate pas l'existence d'un très grand nombre d'exemples de ce type, mais ils existent. Et là encore, ils contribuent un peu à délégitimer la noblesse de l'État, l'exigence d'un État qui serait en effet porteur de l'intérêt national. Donc, vous avez raison, il y a tout un ensemble de phénomènes de dédifférenciation de cet État fort que l'on ne doit pas surestimer, à mon sens, que le mouvement populiste actuel, que les mouvements populistes actuels surestiment en nourrissant une sorte de délégitimation du personnel politico-administratif. Il ne faut pas jeter l'État avec le bain, comme dirait l'autre. Il ne faut pas.
Mais il ne s'y trompe pas quand il continue de prendre pour cible l'État, les préfectures, ces mouvements populistes. Écoutez, la cible est restée la même.
À 2 reprises, ce mouvement populiste s'en est pris à l'État. Ce qui me frappe aussi, c'est que cet État, parce qu'il a moins de légitimité, voit contre lui une contestation qui violente de sa structure. Dans les années antérieures, dans les époques antérieures, jamais l'État, en dehors de la Commune, en dehors des grands événements des guerres franco-françaises, jamais l'appareil d'État n'est pris comme cible par la mobilisation. S'il y a un appel à l'État, à l'intervention de l'État, mais il y a la Commune de Paris, 1934, quasiment un coup d'État, le 6 février 34. Mais ce sont des événements massifs par lesquels s'exprime un mécontentement immense qui menace de faire basculer la société tout entière. Dans le quotidien de la société française depuis deux siècles, on trouve rarement, de manière très exceptionnelle, des mobilisations d'une violence aussi grande que celle à laquelle on a assisté depuis un an ou deux, contre la structure de l'État elle-même. Et le fait que l'État ne puisse pas se défendre, ne se défende pas finalement, puisque l'État, une préfecture a failli brûler et l'autre a failli être enfoncée.
Enfin. D'un côté, on a observé des violences policières considérables. Elles n'ont plus jamais vu depuis très longtemps à ce niveau.
J'ai du mal à faire une sociologie comparative de la violence policière. Si l'on remonte dans le temps, en 1953, les grèves ouvrières, en 1955, l'occupation, la violence policière, elle a toujours été immense, et ce sont simplement les armes dont dispose la police qui diffèrent et la manière dont elle s'en sert.
Et les politiques du maintien de l'ordre qui
diffèrent. Et les politiques du maintien de l'ordre doivent changer.
Le préfet Grimaud n'avait pas la même conception.
C'est certain, mais le préfet Grimaud était un être tout à fait exceptionnel grâce auquel on a évité la révolution et la mort d'hommes en 1968, avant 68 et après 68, il y a énormément de préfets qui n'étaient pas des préfets Grimaud et la police, les forces armées réprimaient avec une violence tout de même immense dont on a perdu le souvenir. La société française s'est pacifiée, il y a une exigence de pacification, de comportement, de courtoisie, pour citer Elias, que vous aimez bien, qui est neuve dans la société française, et on a oublié le degré de violence des années 50, 1950, 53, 55, et par la suite, par laquelle l'armée occupe les usines, la police.
Le seuil de tolérance à la violence a baissé,
bien sûr.
Qu'on réagit comme ça.
Bien sûr.
Le procès de civilisation est toujours en cours.
Tout à fait, et là encore peut-être, il y a une sorte d'américanisation de cette société, qui ne tolère plus toute forme de comportement collectif, de l'ordre de l'idéologie, de l'ordre de l'action collective, porteuse d'une vision du monde, qui est effectivement propre à la société française ou à d'autres sociétés.
Merci Pierre Bienbaume, on se retrouve demain pour le dernier épisode de cette série.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sylvain Bourmeau avec Pierre Birnbaum. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Julien Girard, attaché de production Daphné Abraham, coordination Sandrine Trainer. Cette émission se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.